Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Période de rapprochement et entrée en scène d'Eutychès. À l'issue du concile d'Éphèse, la situation restait confuse. Cyrille avait triomphé et Nestorius était déposé, mais Jean d'Antioche et les évêques orientaux restaient frustrés et mécontents. Il était nécessaire de faire preuve de bonne volonté de part et d'autre pour reprendre le dialogue et débloquer la situation, et fort heureusement, c'est ce qui s'est produit. C'est à Jean d'Antioche qu'est revenue l'initiative conciliatrice. Encouragé dans ce sens par l'empereur, il écrit à Cyrille au début de 433 pour favoriser un rapprochement. Le passage principal de cette lettre consiste en une profession de foi, la voici. « Nous confessons notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu parfait et homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, engendré du Père avant les siècles selon la divinité, né en ces derniers jours pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie selon l'humanité, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité. Car des deux natures, l'union s'est faite. C'est pourquoi nous affirmons un seul Christ et Seigneur. En raison de cette union sans confusion, nous confessons que la Sainte Vierge est Mère de Dieu, Théotokos, parce que le Dieu Verbe s'est incarné et s'est fait homme, et que, dès l'instant de sa conception, il s'est uni le temple qu'il avait pris d'elle. Les paroles des évangiles et des apôtres sur le Seigneur, nous savons que les théologiens appliquent les unes indifféremment aux deux natures, parce qu'elles visent l'unique personne, mais qu'elles distinguent les autres, parce qu'elles visent les deux natures. Celles qui conviennent à Dieu sont dites de la divinité du Christ, celles qui marquent son abaissement sont dites de son humanité. On remarque que ce texte d'union comporte de larges concessions à la théologie d'Antioche. On n'y trouve pas la fameuse formule de Cyrille « une unique nature incarnée du Dieu Verbe », ni l'expression « union hypostatique ». Et on parle de l'humanité du Christ comme du temple du Verbe de Dieu, ce qui est très antiochien. Surtout, on s'inscrit en faux contre l'anathématisme de Cyrille qui interdisait de rapporter tantôt à Dieu, tantôt à l'homme, ce qui est dit du Christ. Mais en même temps, on prend bien soin de préciser qu'il y a dans le Christ un unique sujet, ce à quoi tenait beaucoup Cyrille, et que Marie est Théotokos. Enfin, on inaugure un nouvel usage du mot « consubstantiel » introduit dans le credo par le concile de Nicée. À Nicée, on s'en tenait à dire que le Verbe est consubstantiel au Père. Ici, on ajoute qu'il est consubstantiel à nous, selon l'humanité. Le mot « consubstantiel » a évolué lui aussi, mais nous aurons l'occasion d'en reparler à propos du concile de Chalcédoine. À la réception de ce texte, Cyrille aurait pu mal réagir. Cela n'a pas été le cas, il est resté dans le même esprit de conciliation. Au printemps 433, il fait parvenir à Jean d'Antioche une réponse très élogieuse intitulée « Que les cieux se réjouissent ». Il y renonce aux expressions contestées, « unique nature incarnée » et « selon l'hypostase », et il s'abstient de faire allusion aux anathématismes prononcés 3 ans plus tôt. On arrive ainsi à une formulation équilibrée qui évite à la fois de diviser le Christ, comme le faisait Nestorius, et de fonder son unité sur l'altération de son humanité, comme le faisait Apollinaire. Enfin, le pape Xiste, successeur du pape Célestin, félicite les deux protagonistes, ce qui équivaut à une approbation par Rome de la formule d'union de Jean d'Antioche. Cette fois-ci, on peut le dire, tout est bien qui finit bien. On peut même aller jusqu'à dire que Cyrille d'Alexandrie et Jean d'Antioche, dans la deuxième phase de leur relation, se sont comportés en précurseurs du dialogue écuménique, dont saint Jean-Paul II disait qu'il n'est pas d'abord un échange d'opinions, mais un échange de dons. Il arrive en effet souvent que les tenants de deux opinions différentes voient chacun un aspect de l'unique vérité, sans que cela soit incompatible, mais bien plutôt complémentaire, de ce que d'autres ont vu de leur côté, et dans ce cas, la sagesse conduit à prendre acte du don complémentaire que l'autre a reçu, plutôt que de s'arc-bouter à ses propres positions. L'histoire des conciles christologiques le manifeste très clairement dans la manière dont chacun d'entre eux a honoré le paradoxe du Dieu fait homme en insistant tantôt sur l'unité, tantôt sur la distinction des natures. Éphèse insiste fortement sur l'unité, mais Chalcédoine, comme nous le verrons, mettra en lumière la distinction. Constantinople II sera de nouveau du côté de l'unité et Constantinople III du côté de la distinction. Quant au côté humain, trop humain du concile d'Éphèse, il ne doit ni être exagéré, ni être sous-estimé. L'exagéré conduirait à oublier que les conciles sont conduits par l'Esprit-Saint. Le sous-estimé conduirait à idéaliser l'Église, comme si ceux qui la composent étaient d'emblée des saints. Cyrille d'Alexandrie en particulier, dont on ne peut vraiment pas dire que toutes ses actions soient saintes, a manifestement grandi en sainteté, en dominant son impulsivité et en se montrant conciliant au fur et à mesure que s'approchait le terme de sa vie, qui devait survenir en 444. Jean d'Antioche, lui, était mort 2 ans plus tôt, en 442. En faisant le bilan théologique de cette époque agitée, il ne faut pas manquer de relever les progrès accomplis dans la notion de personne. Le grec disposait de 2 mots assez différents l'un de l'autre. D'une part, le mot « prosopon », qui désigne la manifestation visible d'un visage, et par extension le rôle que jouent les acteurs au théâtre. Rappelons qu'à cette époque, les acteurs portaient un masque, et le prosopon désigne justement le masque de l'acteur. D'autre part, le mot « hypostase », dont la traduction latine littérale serait « substance »,« hypostasis substantia ». On voit tout de suite que prosopon a moins de densité qu'hypostase, puisqu'il ne désigne que l'apparaître, alors qu'hypostase concerne l'être lui-même, la substance. Bernard Meunier en récapitule les enjeux dans le différend entre Nestorius et Cyrille, je le cite. Le langage de Nestorius, qui pose l'unité du Christ comme unité de prosopon, est donc moins fort que celui de Cyrille, qui affirme son unité d'hypostase, c'est-à-dire d'être. C'est pourquoi Cyrille accuse Nestorius de ne professer qu'une unité extérieure, insuffisante, et de manquer d'audace pour dire toutes les conséquences de l'incarnation, par laquelle Dieu même, le Verbe, s'engage réellement dans une existence humaine. C'est justement ce qui rebute Nestorius et beaucoup d'Antiochiens, engager la divinité du Verbe dans l'union et lui attribuer tout ce qui arrive au Christ, la passion, la mort, au péril de sa transcendance. Telles sont les 2 sensibilités, les 2 portraits du Christ qui s'affrontent. Le texte d'union de 433, quant à lui, évite les termes litigieux et ne distingue pas entre union de prosopon et union d'hypostase. Et ce sera finalement le concile de Chalcédoine en 451 qui parviendra à articuler de façon satisfaisante les notions de personne et de nature. Dans l'immédiat, la période qui suivait le concile d'Éphèse paraissait donc devoir se conclure sur un compromis équilibré, mais 2 raisons obligent à nuancer ce bilan. D'une part, la fragilité de l'accord face aux théologiens les plus radicaux, d'autre part, la survie du nestorianisme hors des frontières de l'Empire. Tout d'abord donc, l'acte d'union demeurait fragile, car beaucoup d'Antiochiens ressentaient de l'amertume après la condamnation de Nestorius et la victoire des Alexandrins. Et certains Alexandrins, de leur côté, estimaient que Cyrille s'était montré trop conciliant envers Jean d'Antioche en acceptant l'acte d'union. Henri Maroux résume ainsi les difficultés, je le cite. « Comme toute solution de compromis, l'union de 433 laissait insatisfaits les extrémistes des 2 parties. Cyrille dut s'employer à rassurer ses partisans, inquiets de pareilles concessions. Ses explications montrent d'ailleurs que s'il savait, dans l'intérêt de la paix, ne pas trop exiger d'autrui, il restait pour son compte tout autant attaché à la doctrine exprimée par ses anathématismes. De son côté, Jean d'Antioche dut user de diplomatie et de patience pour obtenir l'une après l'autre l'adhésion de ses amis. Il fallut d'ailleurs se résoudre à exiler quelques irréductibles. Deuxièmement, comme on l'a déjà noté, si la doctrine de Nestorius était vouée à disparaître de l'Empire romain, elle devait perdurer dans les territoires qui restaient hors de son contrôle. C'est ainsi que de nombreux Nestoriens émigreront en Perse. Ils y fonderont une nouvelle école théologique à Nisibe et un patriarcat de l'église nestorienne à Séleucie-Ctésiphon. Les rois de Perse, rivaux des empereurs romains, auront tout intérêt à les protéger. Et leur intense activité missionnaire les conduira jusqu'aux Indes et jusqu'en Chine. L'historien Francis Dvornik fait le bilan de cette expansion nestorienne et de ses limites aussi au cours de l'histoire. Je le cite « Les chrétiens de Saint Thomas aux Indes, maintenant réunis pour la plupart à Rome, sont une survivance intéressante des missions nestoriennes. L'invasion de la Perse par les Mongols au XIIIe siècle amena toutefois un déclin rapide de cette église nestorienne. À la suite d'autres persécutions, il ne resta bientôt plus qu'un petit nombre de nestoriens qu'on trouve encore de nos jours en Syrie et à Chypre. Plus nombreux sont les Chaldéens chrétiens, autrefois nestoriens et maintenant unis à Rome, dont le patriarche réside à Bagdad. » La situation restée tendue entre les deux écoles théologiques laissait entière la question de l'articulation de la personne et des deux natures divines et humaines dans le Christ. Plus précisément, la question posée était la suivante : s'il est acquis que le Verbe de Dieu s'est approprié une nature humaine, qu'en a-t-il fait, si l'on peut dire ? Que devient cette nature humaine du fait de l'union hypostatique ? Est-elle maintenue dans sa réalité ou absorbée par la divinité ? Un nouveau personnage va entrer en scène et donner à ces questions une réponse diamétralement opposée à celle de Nestorius. Ce personnage a pour nom Eutychès, qui signifie en grec le fortuné. C'est un moine de Constantinople, et non des moindres, puisqu'il est archimandrite, c'est-à-dire chef des moines. Il est lié à Dioscore, successeur de Cyrille sur le siège d'Alexandrie, et il a des relations à la cour de l'empereur. Pour achever le nestorianisme, il n'y va pas par quatre chemins. Il proclame que l'incarnation est tout simplement l'absorption de la nature humaine par la nature divine, comme une goutte d'eau dans la mer, si bien qu'il ne reste plus dans le Christ que la nature divine. On ne saurait rêver réfutation plus radicale de Nestorius, mais on ne répond pas à une erreur par l'erreur opposée, sinon on reste plus que jamais dans l'erreur. C'est le cas d'Eutychès qui, il faut le dire, était très loin d'avoir l'envergure théologique de Nestorius, et a fortiori celle de Cyrille, dont pourtant il se réclamait haut et fort.